Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoint. Héloïse Goy pour les séries.
Et salut Héloïse. Thomas, bonjour à tous.
Et Sébastien Bordenave pour les BD.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Mais bah, ouais, aussi,
moi aussi.
Et alors, j'ai le plaisir de recevoir ce matin une philosophe à succès, une enseignante aussi, Claire Marin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant de parler de votre dernier livre, Les Débuts, on va revenir un petit peu au début de votre vie publique pour vous présenter, parce que vous faites partie de ces quelques philosophes qui sortent un petit peu du langage académique pour essayer de vous adresser au plus grand nombre. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement, je crois, chez vous. Ça n'a pas été immédiat.
Bah ça a suivi mon parcours d'études et puis professionnel, mais ouais. Le fait d'être enseignant, ça vous forme quand même à l'exigence d'une langue claire, simple. Mmh. Parce qu'une classe, si elle comprend pas, elle vous fait comprendre tout de suite que ça va pas très bien se passer.
Vous êtes en classe prépa, c'est ça, hypocagne.
Maintenant, oui, mais j'ai aussi enseigné à la fac, j'ai enseigné en terminale générale et technologique, donc c'est public très différent. C'est formateur.
Ouais. Et alors, en fait, vous avez commencé en écrivant deux livres en parallèle, l'un académique et l'autre plus personnel, et les deux parlaient de la maladie. C'est ça.
C'est ça
qui vous a fait connaître au départ.
Ouais, en 2008.
Parce que vous avez contracté une maladie auto-immune à 17 ans, mais qui n'a été diagnostiquée qu'à 25 ans. Donc vous avez connu quelques années d'errance médicale. Et vous dites que ces années vous ont été volées, que sur cette période vous avez eu l'impression de passer un peu à côté de votre vie. Peut-être que l'écriture répare un peu ça d'ailleurs.
Il ne faut pas donner trop de pouvoir à l'écriture malgré tout, même si il y a une dimension cathartique. Et de toute façon, l'écriture était là avant la maladie, donc c'est pas ça qui a déclenché cette pulsion ou ce besoin d'écrire. Mais oui, bah, c'est rare qu'on dise d'une période de grande maladie que c'était la meilleure période de sa vie.
Bien sûr.
Et qu'on a... On entend parfois des gens qui disent on a beaucoup appris, on a beaucoup changé. Moi, je pense pas que ça nous renforce ou ça nous améliore.
Oui, la fameuse phrase, ça nous rend plus fort.
Ouais, ceux qui ne nous tuent pas, nous fragilisent indéniablement.
Et alors, depuis, vous portez une étiquette de philosophe de l'intime. Vous savez que les journalistes, ils adorent les étiquettes.
je m'en suis rendu compte.
Mais alors, c'est vrai que vous n'hésitez pas à mettre de vous dans vos essais. Hein. Vous n'hésitez pas à utiliser le jeu. Là aussi, c'est pour rendre la philo un peu plus concrète, plus proche de nous.
C'est ce qu'on fait en cours, en fait. C'est ce qu'on fait d'utiliser ce jeu ou ce nous pour embarquer avec nous un public qui peut être plus ou moins volontairement là. Donc, y a quelque chose de cet ordre. Et puis, ce jeu, effectivement, on a l'impression que c'est toujours moi, mais il y a plein d'exemples où ce jeu n'est pas moi. Il y a aussi une part de... pas de mise en scène, mais de manière de sortir aussi de sa petite vie et d'aller voir comment ça se passe chez les autres. Donc, l'épisode des claquettes, par exemple, c'est pas moi dans les livres. Mais parce que c'est écrit jeu, on a tendance à imaginer que chacun des exemples renvoie à ma propre vie et elle n'est pas assez intéressante ou riche pour que ça nourrisse des ouvrages.
Parfois, aller chercher ailleurs. Mais dans votre dernier ouvrage, là, les débuts qui vient de sortir en poche, vous commencez quand même en vous adressant à votre fille, Mia, là, c'est bien vous qui parlez.
Ouais,
et vous dites, de toutes les histoires qui commencent, c'est la tienne qu'il m'importe de raconter parce qu'elle bouleverse la mienne comme personne ne l'a jamais fait. Ce tout début de ta vie décide de ce que sera désormais la mienne. Et c'est vrai que tous les parents, ils peuvent évidemment se retrouver dans ces phrases. C'est le début d'une nouvelle vie pour vous.
En bien ou en mal. Parce que parfois, l'arrivée d'un enfant... et pas forcément le début d'une vie joyeuse, soit qu'on n'a pas décidé de cette arrivée, soit parce que pour différentes raisons, ça va être difficile de s'occuper de cet enfant. Donc, moi, j'ai eu énormément de chance avec cet enfant qui n'est donc pas fictive, contrairement à d'autres exemples. Mais j'avais en tête, en l'écrivant, qu'il y avait aussi des débuts qui auguraient d'une existence assez éprouvante.
Et puis c'est l'occasion aussi de vous demander quand démarre vraiment la vie de votre enfant. Est-ce que le début, c'est l'heure de sa naissance? distance, alors que ça fait déjà des mois que vous parlez de lui. À l'inverse, quand on n'a pas vraiment conscience que c'est le début de quelque chose. Donc, est-ce que notre vie, elle démarre pas un petit peu plus tard quand on commence vraiment à interagir avec les gens?
C'est-à-dire que la vie de l'enfant, elle commence avant qu'elle commence pour lui, sans doute, puisque on en a rêvé, on l'a fantasmé, on a été attentif au moindre mouvement quand on le porte. Donc, cette image de l'enfant, d'abord un peu fictive, il va falloir aussi qu'elle coïncide avec l'enfant réel, et parfois ça aussi c'est difficile. Et puis nous-mêmes, quand nous étions enfants, à quel moment on a le souvenir de la première conscience de soi? Voilà, alors on fait parfois ce jeu de chercher son premier souvenir, et de voir ce qui a pu comme ça réveiller cette attention réflexive. Mais c'est bien évidemment, même si de manière sensible, la vie de l'enfant commence avec ses premières perceptions, l'arrivée de la conscience est plus tardive, en tout cas de la conscience de soi.
On va continuer à parler de ce livre de Claire Marin, Les débuts, qui viennent de paraître en poche. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez la philosophe Claire Marin.
Pour ce livre, Les débuts, qui nous invite à nous interroger sur cette notion donc de début. Alors, on parlait de la naissance tout à l'heure, et puis après la naissance, il y a toute cette période de l'enfance, puis de l'adolescence, où les débuts sont très nombreux, les premiers pas, les premières fêtes, les premières histoires d'amour. Et puis, les débuts deviennent moins fréquents quand on avance en âge, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. On peut débuter à tout âge. C'est ce que vous nous dites aussi dans ce livre.
Oui, je crois qu'on a une représentation un peu cliché selon laquelle il y a la période de la jeunesse où tous les débuts s'accumulent. Il y a aussi des débuts qui sont difficiles. En fait, il ne faut pas idéaliser. Juste avant, votre invité parlait du harcèlement. Parfois, rentrer au collège ou au lycée, ça produit le début d'une souffrance aussi. Donc, tous les débuts ne sont pas nécessairement joyeux. Et je pense que précisément parce qu'on est un peu pris dans ce schéma-là, qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui commence, on saisit peut-être pas les occasions de créer quelque chose de neuf. On est peut-être un peu prisonnier de cette espèce de courbe qui descend à partir d'un certain âge et où on ne ferait plus que le même, on serait dans la répétition. Ouais. Je pense que c'est aussi une question de peut-être d'envie, d'énergie, parfois de courage, parce qu'il y a toujours un risque à débuter quelque chose de nouveau.
Le début, c'est pas forcément une première fois. On peut, par exemple, se remettre en couple avec quelqu'un, déménager. C'est pas forcément allié à une découverte.
Non, c'est pas forcément une toute première fois. Oui. Et quand bien même c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, ça a la couleur de la première fois. Quand on retombe amoureux, on peut avoir des émotions aussi fortes et peut-être bien plus fortes que la première fois.
Vous dites qu'on peut aussi avoir envie de revivre l'émotion justement de nos premières fois. On guette la nouveauté pour nous extraire des ce que vous appelez les marécages de la routine dans laquelle nous étions enfoncés sans même nous en rendre compte. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et on recherche un peu ces sensations du début, mais même si ça peut être angoissant parfois, laborieux aussi. Débuter un livre, par exemple, face à la page blanche, il peut y avoir quelque chose de très angoissant, j'imagine.
Oui, sans doute.
Vous le ressentez, ça, parfois, non?
Ce qui est plus difficile pour moi, c'est pas de commencer à écrire, c'est de donner un ordre et surtout de finir. Ce qu'il faut que j'apprenne, c'est à finir.
Mais parfois, ça, vous en parlez aussi. Parfois, il y a des débuts qui n'ont pas de fin, et c'est très bien comme ça.
Oui, tout à fait.
Et alors, vous avez une collection particulière, Claire Marin. Vous faites collection, justement, de ces premières fois. Vous les consignez?
Non, je ne les consigne pas, mais je me souviens toujours assez nettement des premières fois, y compris celles qui sont absolument banales. La première fois que j'ai mangé tel fruit.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez mangé un kiwi?
Oui. Oui. Je m'en souviens très bien, parce que c'était une fois rare, c'était en primaire, on devait faire une salade de fruits dans la classe, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais chacun devait apporter un fruit, et il y avait une élève qui avait apporté un kiwi, j'en avais jamais vu, donc je suis rentrée chez moi avec une revendication très forte, nous aussi on doit manger des kiwis, mais les kiwis ça coûtait très cher à l'époque. Donc c'était déjà un marqueur social.
Vous vous rendez compte que c'est quand même une chance, parce que très souvent, je ne sais pas vous autour de cette table, mais très souvent on essaye de se rappeler, surtout en amitié, la première fois. Alors c'était quand la première fois que j'ai vu Thomas? La première fois qu'on s'est parlé. Et on n'y arrive pas, je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux là-dedans, il y a un manque de ne pas se rappeler.
Mais du coup, Claire Marin, vous vous souvenez du tout premier souvenir de votre vie?
Il y a quelque chose que j'identifie comme un souvenir très très ancien et qui est un souvenir de voix. Et je pense que je sais de qui est cette voix, enfin à qui est cette voix. Mais après, ça peut être un souvenir reconstitué.
Oui, vous avez quel âge selon vous?
Je pense que j'étais très petite.
Ouais. Mais ça veut dire quoi, très petite?
Très
petite.
Oui, c'est ça, dans la première année de ma vie.
Ah oui,
c'est incroyable. Ah, ça. Fou. Vous, c'est quel âge, vous, votre premier souvenir à peu près les uns les autres?
Moi, je dirais 6-7
ans.
Moi, je dirais la fin de la maternelle.
C'est ouais, ça.
4,
moi,
je me souviens d'une odeur pour la première fois. Une odeur aux États-Unis.
C'est quoi comme odeur?
C'était une odeur de café aux États-Unis et je me rappelle avoir vu le World Trade Center. J'étais toute petite, j'avais 4 ans. Mais c'est comme vous dites. Non, mais il y a aussi des photos. Et je me rappelle d'une odeur dans un coffee shop à New York.
Je sais pas. Voilà. Sans doute qu'après l'émission, on va avoir des spécialistes qui vont dire « Elle dit n'importe quoi, cette philosophe !»
Mais alors justement, vos débuts avec la philosophie, est-ce que c'est quand vous découvrez à 12 ans le jardin secret de votre grand-père ?
Non, pas du tout. C'est quand mon père me dit, mais là je suis sans doute déjà, peut-être déjà au lycée, quand je trouve dans la bibliothèque les méditations métaphysiques de Descartes, ou le discours d'un méthode, je ne sais plus, et que je demande à mon père à qui appartenait ce livre, de quoi ça parle, et il me dit, oh, ça c'est vraiment très compliqué.
Ouais.
Et donc il suffisait de me dire c'était très compliqué pour que... Et j'ai trouvé ça très compliqué, je l'ai reposé assez vite, j'étais d'accord avec mon père.
Je trouvais des teintes, hein, moi, dans la bibliothèque chez mes grands-parents.
Moins compliqué.
Mais c'est parce que c'était les ouvrages qu'on étudiait
bien sûr,
au lycée à l'époque. Voilà.
Ça vous a donné envie d'aller plus loin?
Pas du tout, je l'ai reposé.
Vous l'avez lâché,
et en fait, les questions philosophiques, j'allais les chercher dans les romans, dans la littérature.
Ah.
Parce que c'était mis en scène, c'était pris dans une histoire, c'était la vie telle qu'on peut s'y reconnaître. Et donc, c'était une philosophie déjà très concrète, en fait.
Ça se sent effectivement dans votre écriture aujourd'hui, notamment dans ce livre, Les Débuts. Il y a un livre qui forme une sorte de triptyque, d'ailleurs, avec Rupture et Être à sa place. On continue à en parler dans un instant. On sera avec Héloïse Goy pour un premier indispensable.
Oui, Claire Marin m'a servi une transition sur un plateau parce que je vous parle d'une série, la nouvelle saison d'une série qui est une fable philosophique absolument géniale.
Et puis, on va jouer avec les auditeurs au 3 ou rien.
Oui, vous allez pouvoir tenter votre chance aujourd'hui et venir nous rejoindre pour jouer. Alors, c'est simple. Pour nous rejoindre, il suffit d'envoyer Media, M-E-D-I-A-S par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. On vous rappelle et vous allez jouer et peut-être tenter de gagner aujourd'hui vos invitations pour assister au spectacle de votre choix grâce au site ticketac.com. Il y a 1500 spectacles dans le catalogue. Il y a de quoi faire. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h ce matin avec Thomas Hill et votre invité, la philosophe Claire Marin.
Et on est avec Héloïse Goy. Alors Héloïse, vous n'êtes pas du genre à nous recommander des séries nulles et fades. Hein. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une série particulièrement formidable, drôle, poétique et philosophique.
Et oui, une série que je recommande à absolument tout le monde sans exception. Enfants, adultes, journalistes, philosophes, enseignants. Aucune excuse ne sera acceptée pour ne pas regarder The Big Door Prize. Alors ce titre vous dit peut-être quelque chose parce que cette série, ça a été la très bonne surprise du printemps dernier. Mais cette fiction, adaptée d'un roman américain du même nom, n'a pas, selon moi, encore le succès phénoménal qu'elle mérite. Cette pépite vaut vraiment le détour. Et ben, ça tombe bien, je vous en parle aujourd'hui parce que la saison 2 vient de débarquer sur Apple TV+.
The Big Door Prize, comment on peut traduire ça?
Le prix de la grande porte. Mais je crois que c'est une expression américaine. The Big Door Prize, ça veut dire...
Il y a un truc énorme derrière la
porte. Très gros prix, ouais.
Et c'est quoi le pitch alors?
Direction Deerfield, une petite bourgade toute calme aux États-Unis. Ce patelin commence à s'agiter le jour où une drôle de machine débarque mystérieusement dans la supérette du coin. Bon, à première vue, ça ressemble à un photomaton, mais cet engin est beaucoup, beaucoup plus intéressant que ça.
Cette machine vous révélera votre potentiel de vie.
Vous savez ce que j'ai eu? Superstar.
Moi, j'ai eu danseuse.
Mannequin homme. Qu'est-ce qui leur arrive à tous? Pourquoi ils décident tous de changer de vie du jour au lendemain?
Celui que vous venez d'entendre, c'est Dusty, un professeur d'histoire de 40 ans, plutôt bien dans ses pompes. Et là, il a du mal à comprendre comment tout le monde peut faire confiance à Morpho, cette cabine capable de vous écrire sur une carte ce que vous pourriez être dans le meilleur du monde, des mondes. C'est sûr, pour 2 $, c'est pas fiable ce truc.
C'était quoi comme carte?
Guérisseuse.
C'est l'univers qui me demande de me consacrer à mon bien-être.
Ou alors, ça voulait dire docteur, la profession que t'exerces chaque jour depuis des années.
Bon, en réalité, Dusty charrie parce qu'il a carrément les chocottes de cette machine. Mais comme tout le monde s'y frotte, eh ben, il finit par se lancer à son tour. Devinez ce que l'engin lui indique comme potentiel de vie.
Garagiste.
Non.
Un truc horrible.
Eh ben non.
Tueur en série.
On lui indique professeur siffleur, c'est-à-dire précisément ce qu'il est déjà.
Ah, waouh.
Alors forcément, face à ses amis qui reçoivent des potentiels beaucoup plus excitants comme shérif, héros ou même tête couronnée, Dusty aurait peut-être préféré ne pas avoir de réponse à des questions qu'il ne se posait pas vraiment.
Je viens d'avoir 40 ans. Je n'ai pas de talent particulier, si ce n'est celui de siffler. Et je n'ai eu qu'une seule relation amoureuse. D'accord, je sais pas si je suis heureux. J'avais jamais vraiment réfléchi. Et ça m'allait très bien.
Donc, une multitude de questions métaphysiques aspirent désormais cet homme attachant qui se serait bien passé de ses nouveaux nœuds au cerveau. Et la saison 2 est tout aussi géniale parce que la machine propose encore de nouvelles étapes. Les personnages peuvent cette fois voir des images de la vie qu'ils pourraient avoir. Et en fait, c'est à eux de choisir s'ils changent de vie ou pas. Derrière un ton léger et très drôle, cette fable philosophique interroge frontalement nos angoisses, nos choix, la place du libre arbitre ou de la prédestination dans nos vies. Un peu à la manière des séries The Leftovers ou The Good Place, super série. C'est profond, malin et même bouleversant. Les épisodes nous posent de petites questions existentielles, légèrement vertigineuses. Suis-je à ma place? Puis-je être heureux en me contentant de ce que j'ai? Ou ce que je pourrais être vaut-il mieux que ce que je suis? Et puis malgré ces personnages ultra bien construits et une écriture très juste et poétique, The Big Door Prize, c'est pas une série qui se la pète, ça j'aime bien. C'est une petite production douce, fine, tendre, qui fait du bien tout en faisant travailler nos méninges.
Cette machine nous rappelle à tous que dans la vie, il peut y avoir plusieurs chemins.
C'est vous qui allez déterminer votre propre potentiel de vie.
Et vous, Monsieur Bard, vous voulez devenir quoi?
Il n'a pas la réponse là, monsieur Barlin.
Il
n'a
pas la réponse. Les deux saisons sont à voir sur Apple TV+, ou MyCanal. Vous pensez, Claire Marin, qu'on peut réfléchir avec ce genre de série?
Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs des profs qui font très très bien de s'emparer du cinéma ou des séries comme support.
C'est un bon début.
C'est un très bon début. C'est un plan commun avec les élèves. Donc, on part de la même chose. Parfois même, ils connaissent beaucoup mieux que nous. Donc, ça peut être un très bon support. Mais ça demande une maîtrise technologique qui m'échappe.
Ah oui, clé USB et tout ça. Merci Héloïse Goua. Après le journal permanent sur Europe 1, nous serons avec un invité inattendu, un certain Stéphane Tsakas. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les matins avec Thomas Hill. Et ce matin, vous recevez la philosophe Claire Marin.
Et alors Claire Marin, vos livres ont un succès fou, et notamment Rupture, qui s'est vendu à près de 90 000 exemplaires, qui parle des séparations qui rythment notre existence. Et alors ce matin, notre invité inattendu, figurez-vous qu'il est spécialiste en rupture, puisqu'il est rupturothérapeute. Il s'appelle Stéphane Tsakas. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour Thomas, bonjour Claire, bravo pour tous vos ouvrages qui me servent au quotidien dans mon travail difficile. Ce sont pour moi des bibles, comme peut l'être Le faux suicide pour les nuls, pour Kenji Girac.
Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu, Stéphane, ça consiste en quoi un rupturothérapeute?
Alors c'est très simple, écoutez, j'aide les gens lâches qui n'osent pas quitter leur partenaire en le faisant à leur place.
Ah oui, d'accord, c'est original ça comme profession. Et ça marche, vous avez beaucoup de patients, de patientes?
Oh oui, alors bon, faut savoir que bizarrement j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir. Niveau rupture, c'est marrant, mais les femmes, quand ça va pas, elles n'ont besoin de personne pour foutre les valises sur le palier. Alors que bizarrement, les hommes ont plus de mal à quitter les femmes. Mais il y a un terme médical à cela, ce serait dû à une cryptorchidie.
Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça?
Alors c'est simplement une absence de testicules dans les bourses. En gros, ils n'ont pas de couilles, quoi. Donc moi, ils me payent pour que je les ai pour eux. Il y a différentes tailles, ça va de la paire de litchi, alors là, c'est le ça va pas le faire après un rendez-vous Tinder, à la paire de pastèques. Là, c'est le je te quitte la veille de l'accouchement de sa femme. Oui, j'en ai déjà eu, malheureusement.
Alors comment ça se passe concrètement, Stéphane, lorsque vous devez aller annoncer une rupture?
Alors ça dépend, j'ai la formule à 190 €, mais là c'est vraiment dur. Je sonne à la porte, toc toc toc, bonjour madame, votre mari vous quitte, il ne vous aime plus, il a trouvé une petite jeune avec qui il refait sa vie, et je repars. C'est un peu dur. C'est pour ça que j'ai la formule chanson à 290 € qui marche très fort. Pareil, je sonne à la porte, mais cette fois avec une petite enceinte. Toc toc toc, bonjour madame, je viens de la part de votre mari qui voulait vous dire que... C'est pas mal, c'est plus doux. Alors j'ai des variantes. Toc toc toc, bonjour madame, votre mari a décidé de...
Bien sûr.
Voilà. Et alors j'ai mon petit bonus, ma touche personnelle. En général je finis avec ça, histoire de bien enfoncer le clou.
tu es le maillon faible.
C'est radical. Alors après, j'ai des petites options. Avec un supplément de 5 euros, je rajoute une boîte de Kleenex. Et pour 100 euros, je rajoute votre livre Rupture, Claire Marin.
Oui, je marge un peu sur le livre.
Désolé. Je mange. Hein.
Et alors, les personnes réagissent comment en général?
Forcément, le problème, c'est que comme je suis la seule personne qu'elles ont face à eux, c'est moi qui morfle. Hein. Je ramasse. Depuis janvier, j'ai eu 138 gifles, 34 allers-retours, 16 griffures et une fracture du nez et un bras cassé.
Carrément, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, c'est ce con de mari qui a oublié de me dire que sa femme était championne de MMA. Donc je me suis tiré en courant dans les escaliers et là, il y a eu une rupture. Quoi.
De couple?
Non, rupture des ligaments croisés. Mes ligaments croisés qui ont pété. Non, je vous jure, on fait pas un métier facile. Je vais vous laisser, j'ai des ruptures à aller annoncer. N'hésitez pas, Thomas, Anissa, les amis.
Non, merci,
je vous fais des prix s'il faut. Claire, merci, car grâce à vous, les ruptures sont un peu plus légères et les gifles se feront, je l'espère, un peu plus rares à l'avenir.
Merci Stéphane Sakas et bravo Pierre-Antoine Damcourt.
Moi j'aime bien la formule en chanson, c'est pas
ouais,
mal. Hein
ouais, je vous la fais si vous avez. Ça va,
si vous avez un message à passer.
Écoutez, on se verra après l'émission.
Très bon. Oh, 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 oh. Ça chauffe.
Avant ça, on va jouer surtout.
Ça chauffe pour Sochalion. Bon, allez, on va jouer avec les auditeurs. Oui. Donc 3 ou rien, 3 bonnes réponses, ou sinon vous ne gagnez rien.
Et ce matin, vous jouez pour tenter de remporter vos invitations de place pour le spectacle de votre choix sur le site ticketac.com parmi un catalogue de plus de 1500 spectacles, il y a tout, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des one-man shows, des expositions, ticketac.com que vous pouvez découvrir dès maintenant évidemment.
Ticketac, oui, et nous accueillons Géraldine bien sûr. Bonjour Géraldine.
Oui, bonjour Thomas, bonjour à vos invités.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où Géraldine?
Alors de Saint-Estève, à côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.
Ah,
très bien, Perpignan.
Et alors, votre couple, ça va?
Vous êtes en couple?
Ça va très bien depuis 30 ans, oui. Merci.
Ah, c'est
depuis
beau.
30 ans, oh, il serait peut-être temps de faire appel au service. Stéphane,
je suis dispo.
Ouais, j'ai adoré la séquence humour, bravo. Oh.
Mais il est cher un peu.
Ouais,
quand
même. Il coûte un peu cher. Bon, alors j'ai 3 extraits sonores pour vous, Géraldine. Vous allez entendre à la suite ce matin un chanteur, un extrait de film et un générique télé. Écoutez bien.
Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux.
Ça peut fonctionner.
Je vais dans une de mes formules.
Je suis plutôt super amant.
1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3, soleil. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant.
Mon fou.
Ah, ça aussi, il y a des couples là-dedans. Ouais. Des couples qui se forment. Alors Géraldine, qu'est-ce que vous avez reconnu?
Alors, le premier et le dernier, mais le deuxième, je ne sais pas.
On va vous aider. Dites-nous, le premier.
Alors,
déjà.
Alors, le premier, je pense à Francky Vincent.
Francky Vincent, bien sûr, bien joué. Le
ça
dernier.
A été reçu par Jordan de Luxe, d'ailleurs.
Ah ouais. Oui, c'est vrai.
Et oui, le tournée manège pour le dernier.
Bien joué, wow. Tourner manège, qui est le souvenir.
Avec Charlie Oleg.
Ah, et son petit clavier.
Bien sûr.
Et puis, 1, 2, 3 soleil, et là, ça me...
Ah. Un film où ils se retrouvent tous au Cap Ferré, c'est des copains.
Avec Guillaume Canet.
François Cluzet qui s'énerve. Il y a des.
Non, je suis pas un ton fils.
Ah, les petits mouchoirs.
Les petits mouchoirs. Bravo, Géraldine.
Oh, je suis contente, merci beaucoup.
Bravo Géraldine, vous gagnez vos invitations de place à choisir sur le site ticketac.com à Perpignan ou ailleurs, hein, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai regardé à Perpignan, il y a le spectacle Pas de panique, qui a Monique. Parmi les...
Vous pouvez choisir autre chose, hein, attention.
Mais
c'est pas
rigolé.
Imposé. Hein.
Mais il y a ce que vous voulez, vraiment, c'est ça.
C'est quoi le pitch de Pas de panique, qui a Monique?
Alors attendez, il faut que je clique.
Ça m'intéresse. Hein,
pas
on
de
va...
panique, qui a Monique. Toujours en quête de son prince charmant, elle aime taquiner la gente masculine en usant de toutes les astuces pour arriver à ses fins, trouver l'homme de sa vie. Ses 3 petits-enfants lui offrent une tablette pour son anniversaire afin qu'elle puisse se connecter et faire des rencontres. Ah, pas de panique,
intéressant, Monique. Monique, il y a beaucoup d'humour.
3h40 a duré quand même.
Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez, Géraldine, vous choisissez le spectacle de votre choix. Il y a des pièces de théâtre, des concerts, il y a des spectacles d'humour. Vous allez pouvoir en profiter grâce au site ticketac.com.
Voilà.
Moi, j'adore le théâtre, je vous remercie.
Voilà Géraldine, on vous embrasse, à bientôt. Merci d'avoir joué avec nous.
Bonne journée Géraldine.
On va se retrouver dans un instant pour la suite de Culture Média. On va parler BD avec Sébastien Bordonave et puis le chanteur Hervé nous rejoindra pour son live.
C'est ma faute, c'est ma faute. Je me perds dans la psychose hexagonale.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Vous recevez la philosophe Claire Marin.
Vous nous parlez des débuts dans ce livre et vous citez un autre philosophe d'ailleurs, Gilles Deleuze, qui lui nous dit que ce qui compte ce sont pas les débuts ni les fins mais le milieu. Les choses et les pensées poussent ou grandissent par milieu et c'est là qu'il faut s'installer, c'est toujours là que ça se plie. Ce qui veut dire que c'est que les débuts sont pas toujours très nets, très flamboyants, c'est ça, que les choses se font progressivement en général.
Oui, puis même si c'est le début pour nous, ça l'était pas pour les autres. Quand on rentre sur le plateau, l'émission a déjà commencé.
Ouais.
Il faut avoir cette capacité à s'insérer dans quelque chose qui existe déjà. Donc, on a tous des débuts qui peuvent être plus ou moins désynchronisés. Il faut voir comment on rentre dans la chorale, comme vous disiez tout à l'heure, et comment on y trouve sa place.
Vous êtes très bien inséré dans cette chorale, Claire Marin. Chorale dans laquelle il y a également Sébastien Bordenave.
Ah oui.
Et ce matin, vous nous parlez d'une BD qui s'appelle Deux Têtes, parce qu'elle a été écrite par deux sommités de la neuroscience, Uta et Chris Fritt. On va apprendre beaucoup de choses sur notre cerveau.
Oui, citons aussi le fils Fritt, hein, Alex Fritt, qui a tenté de récolter et résumer le plus pédagogiquement possible le savoir de ses parents. Les dessins sont de Daniel Locke. Alors la matière donc vient de Chris et Uta Fritt. Chris a 82 ans. Il a beaucoup travaillé, lui, sur la schizophrénie et son épouse, Uta, 83 ans dans un mois, s'est beaucoup intéressée, elle, à l'autisme et à la dyslexie. Alors ça donne une BD passionnante, 317 pages de cervelle. Faut parfois allumer la sienne hein, pour comprendre parce qu'il y a des pages qui sont très très denses.
Problème, ça.
Mais vous savez, c'est sûrement parce que mon cerveau à moi n'est pas habitué. Et ça, c'est le grand enseignement de cette BD. Notre cerveau se modifie en fonction de nos activités et ça marche avec d'autres organes, non pas celui-là, Thomas. Par exemple, si je me mets au bras de fer, eh ben, mon bras sera différent que celui que j'ai là maintenant.
Sûr. L'entraînement, quoi.
Exactement. Pour le cerveau, on appelle ça la plasticité. Et scoop, ça a été observé chez le cerveau humain à travers l'histoire. Une évolution a été prouvée scientifiquement. Nous sommes une espèce sociale. Eh ben, nos cerveaux, en fait, ont changé pour favoriser un mode coopératif pour qu'on soit, en fait, plus efficace dans nos interactions.
Ah oui, vous avez l'impression qu'on est plus coopératif aujourd'hui. Et est-ce qu'on sait si cette plasticité, elle est infinie, si on peut évoluer encore et toujours?
Alors, on le sait, et la réponse est non. La preuve, écoutez.
J'ai parlé avec un taximan hier, et lui aussi, il avait un accent, il était portugais.
Bah là, on est en 2014 sur Europe 1. Ça fait 46 ans que Jane vit en France. Elle a encore l'accent. C'est la preuve que le cerveau ne peut pas se reprogrammer à l'infini. Par contre, des scans de cerveau de chauffeurs taxi londoniens, les gens qui sont capables d'apprendre par cœur 2000 rues, et bah, ils ont des hypertrophies de l'hippocampe à certains endroits. Et à certains endroits, c'est réduit. Et encore plus fou, quand ces gens-là prennent leur retraite, et bah, tout se remet en place tranquillement.
Oh là
alors, il y a beaucoup, beaucoup d'infos dans cette BD. Déjà, sachez que même avec une moitié de cerveau, on peut s'en sortir.
Ah, c'est rassurant, ça. Ouais.
Voilà.
Mais par ça contre, dépend de quelle moitié.
Et bah, exactement, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on sélectionne, parce qu'on sait qu'il y a des zones qui sont très précisément identifiées. Par exemple, on sait que la zone qui sert à reconnaître les visages, et bah, on sait exactement où c'est dans le cerveau. C'est en bas, voilà, je spoil. Et il y a aussi plein d'expériences passionnantes qui sont racontées dans cette BD. Par exemple, on a mis 100 personnes dans une pièce. Et on leur a dit, vous allez devoir deviner celui qui sera désigné comme le plus beau. Pas le plus beau, pas celui lequel vous trouvez le plus beau, mais celui qui sera... Et on observe les cerveaux et il se passe un truc incroyable. Là aussi, je vous donne le résultat, c'est Thomas Hill qui gagne à la fin.
C'est toujours Thomas Hill qui gagne à la fin.
Voilà, une BD passionnante que je vous offre, Claire Marin.
Merci.
Ça vous dit, ça s'appelle Deux Têtes. C'est édité chez De Noël Graphique.
Magnifique. Et ben, merci Sébastien Bordenave qu'on retrouve avec Héloïse Goua, bien sûr, dans La Voix et Livre de Nicolas Carreau tous les dimanches de 19h à 20h. C'est le moment maintenant de notre coup de cœur musical, un coup de cœur pour un artiste qu'on a connu en 2020 avec ça. Hervé est avec nous ce matin. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Énorme succès que ce titre, Si bien du mal. Il faut dire aussi que le titre a été utilisé pour une très belle pub d'une marque de café.
Ouais.
Et ça, c'est assez génial pour lancer une carrière parce que ça vous fait découvrir à plein de gens, ça.
Ben oui, ouais, c'est cool. Bah, en fait, à la base, le titre, j'avais juste fait un clip dans ma cuisine pendant le confinement. C'était pas du tout une idée. Il y avait un paquet de cette marque de café. En gros, un maxi paquet parce que c'est le café que boit mon père.
Mais c'était le confinement,
un truc,
pas trop.
T'en as deux gratos là.
Ouais, un Intermarché, ouais, je vois.
Avec une grand-mère dessus.
Non, c'est pas celui-là.
Non, il est noir.
Ouais, voilà. Et en gros, deux ou trois mois après, en fait, voilà, il voit ce clip, etc. Et donc on voit dans la pub, ouais, voilà, et dans la pub, voilà, un danseur qui danse comme ça. Non, c'est pas voilà.
C'était génial. Alors, l'autre accélérateur dans votre carrière, c'est que vous serez sacrée révélation masculine aux Victoires de la musique. Ça aussi, ça a été un boost formidable.
Oui, c'était fou. Et particulièrement cette année, parce que j'étais nommé l'année d'après, etc. Ouais. Et cette année-là, c'était particulier parce que c'était l'année de la débrouille. C'était une année Covid, une année sans live. Donc moi qui passe beaucoup de temps sur scène, sur les routes. Là, je pars en festival tout l'été, enfin toute l'année en fait, toutes les saisons quoi. Et c'était une édition qui avait un goût particulier. Il n'y en aura pas deux comme ça quoi.
Et ben alors justement, vous allez pouvoir vous mettre en place pour qu'on vous écoute en live. Vous allez nous faire découvrir le tout premier titre de votre nouvel album apparaître. L'album s'appelle Adrénaline. Il sortira le 31 mai. On va découvrir donc votre tout premier titre qui s'appelle Sémaphore. Voici Hervé en live, rien que pour vous sur Europe 1.
Europe 1, 9h30, 11h, le live, Culture Média.
Le footing asthmatique, à courir la carrière, sur un fil on traverse alors, sur un vent travers. Parce qu'on reste ce que nous sommes. Soigner les rhumatismes en échappe belle. Les sorties pistes, les sortilèges. Ce qui nous porte, ce qui nous baisse. Parce qu'on reste ce que nous sommes. Réveillés par l'éthique. On fait des gosses, on fait des clics. On s'aime face à la mort. On se remet mort, on s'ignore. Parce qu'on reste ce que nous sommes. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, le c'est ma fort. Je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai perdu là, je sais plus bien où je marche. Pour qu'on reste ce que nous sommes. Funambule, ça bascule. On avance sans recul. La matrice qui materne. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort. Je reste ce que nous sommes. On se détend, on se déclic. On refait des gosses, on refait des clics. On s'aime plus face aux morts. On s'ignore là, si seigneur. Parce qu'on reste ce que nous sommes. Prends-moi la main, serre-la fort. C'est ma faute, c'est ma faute. Je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre la fort. C'est ma faute, c'est ma faute. J'ai perdu l'âge, je peux bien mon chemin. Pour qu'on reste.
Ce matin sur Europe 1. Et alors vous y trompez pas, parce que là c'est une petite balade tranquille.
Là c'est la balade.
Il y a un petit peu du Raphaël là-dedans, j'ai eu
l'impression. J'aime beaucoup Raphaël, beaucoup.
Mais c'est vrai que vous faites des titres aussi qui bougent beaucoup plus.
Oui,
et qu'on
c'est
peut
ça.
Découvrir sur scène avec une énergie folle, hein, parce que ce garçon a une énergie incroyable.
Puis il y a de la philosophie dans ses paroles, hein, clairement. Il y a beaucoup de questions.
Je l'ai écouté hier et après j'étais un peu sur le texte. Très beau texte. Très
merci, c'est gentil, merci beaucoup.
Eh ben bravo, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour les dernières minutes de Culture Média aux côtés donc de la philosophe Claire Marin et de Hervé.
Europe 1.
Et ce sont déjà sur Europe 1 les toutes dernières minutes de Culture Média avec Thomas Hill et vos invités. Thomas, ce matin.
On l'aime cette chanson aussi, Un monde meilleur d'Hervé. Hervé, vous êtes complètement autodidacte. Hein.
Oui.
Vous avez commencé la musique à 16 ans sur votre ordi, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, plus jeune, j'avais une sensibilité extrêmement forte au piano. Donc dès que j'entendais de la musique ou du piano, ça me débordait complètement, quoi. Sauf que j'ai pas de musicien dans ma famille, donc ma maman, elle s'est dit, ok, bah qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il joue d'un instrument, quoi. Non, c'est pas. Donc je suis allé un peu à l'école de musique de ma ville. Ouais. Et très rapidement, j'ai été vraiment extrêmement nul. C'était vraiment, j'avais dyslexie en fait, donc c'était un peu paradoxal parce que j'avais une sensation très forte pour la musique, un amour qui me dépassait complètement, mais une façon de le transformer avec les doigts, etc., qui était impossible. Et finalement, j'ai repris à 16 ans. Et après, oui, j'ai appris la production, à composer. Et puis ensuite, j'ai écrit, je me suis mis à chanter. Voilà.
Donc aujourd'hui, vous faites tout?
Oui.
Vous composez, vous écrivez, vous faites tout vous-même?
Oui, j'écris, je compose, je produis. Et puis souvent, je fais les clips aussi. Et puis voilà.
Et puis voilà. Et alors, Adrénaline, c'est un album que vous avez enregistré en Angleterre?
Exactement. En fait, j'ai beaucoup tourné en Angleterre avec mon groupe Postal. C'est un groupe que j'avais de musique électronique en 2017, 2018. Et en fait, oui, j'avais envie d'y retourner. C'est un disque qui est très rock, qui est très Britpop. Donc aussi, c'est années 80 de la musique anglo-saxonne que j'ai beaucoup, beaucoup écoutée. Et voilà, là, je commence par une balade, mais après, ça bastonne, quoi. Non, vous inquiétez pas. Hein.
D'ailleurs, la chanson qui donne son nom à votre album, Adrénaline, c'est un duo avec une personnalité française adorée ici et carrément idolâtrée outre-Manche. C'est Eric Cantona.
Eh oui, et en fait, Eric, ouais, je peux dire Eric. Hein.
Ouais, c'est un copain, c'est un copain.
J'adore dire ça. Oui, Eric, du coup. En fait, je pouvais pas faire un album qui s'appelle Adrénaline sans appeler Eric Cantona, qui est pour moi l'incarnation de l'adrénaline, quoi, pure, quoi, et de la sincérité.
Vous êtes fan de foot aussi, hein, faut le dire.
Aussi, c'est vrai. Et en fait, c'est ce lien à, cette urgence qu'il a. Enfin, voilà, pour moi, c'est l'adrénaline, c'est Eric Cantona.
Oui. Oui, dans le foot et sur scène aujourd'hui, au cinéma, partout.
Ouais, partout, c'est ça, même quand il fait sa série, Dérapage, c'est génial. Dès qu'il prend la parole, j'ai l'impression que c'est pour dire quelque chose.
Et Hervé, vous serez sur scène tout cet été. Hein. Il y a les concerts qui commencent à partir du 8 juin. Vous serez surtout au Vieille Charrue à Carré le 11 juillet et au Francofolie de La Rochelle. Hein, super concert au Francofolie de La Rochelle le 14 juillet.
Et alors vous, Claire Marin, votre...
Je ne suis pas en concert.
La semaine prochaine, la maroquinerie. Votre prochain essai, il est prévu pour 2025, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Et il aura pour objet le corps et le toucher, cette fois-ci.
C'est ça.
Donc, un nouveau territoire encore à explorer. Et on a de découvrir ça. Vous dites d'ailleurs avoir un rapport physique à l'écriture. C'est vrai, ça, comment ça se manifeste?
C'est mon athlétisme à moi. C'est-à-dire que j'écris à la main et c'est quelque chose... Oui.
Ah oui, c'est rare. C'est vrai que ça devient rare.
Et c'est un geste que j'aime faire physiquement et que parfois j'ai besoin de faire.
Et pour retrouver la très belle écriture de Claire Marin, c'est dans Les Débuts, c'est disponible en livre de poche à 7,70€. Ouais. Franchement,
très accessible.
Franchement, c'est très accessible. C'est un bon plan qu'on vous donne ce matin dans Culture Média. Merci d'être venus tous les deux au micro d'Europe 1 ce matin. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci.
Demain, à votre place dans Culture Média, nous accueillerons les comédiens Artus et Alice Belaïdi. Ils viendront nous présenter un film drôle et touchant qui s'appelle Un petit truc en plus.
Ouais, réalisé par Artus. Et puis dans la première partie, on s'intéressera au documentaire événement de France 3 sur l'Indochine, une guerre oubliée.
Vous pouvez réagir dès maintenant à nos invités, leur laisser vos questions, vos réactions dès maintenant au 01 80 20 39 21.
Et bonjour Pascal Pro.
Bonjour ami Artus, c'est drôle parce qu'on va en parler, parce que figurez-vous que c'est une des séquences sur lesquelles les internautes réagissent le plus sur
Léa
le site.
Salamé.
La remarque de Léa Salamé qui se félicitait, Artus s'est félicité d'avoir arrêté de boire et de fumer pour gérer ses angoisses. Et elle a dit, elle lui a répondu, vous êtes devenu chiant.
Et elle a insisté un peu lourdement là-dessus, effectivement, et ça a fait beaucoup réagir.
C'est pas le genre de Léa pourtant, mais en plus non, je le dis sans ironie du coup. Donc ça fait réagir.
Je crois qu'il est même question qu'elle fasse des excuses dans son émission de samedi soir. On suivra ça. Écoutez, c'est fou, hein.
Faire des excuses. C'est les procès de Moscou. Tu faisais tes excuses au milieu, mea culpa, mea maxima culpa.
C'est ça. On en parlera aussi à Artus demain, bien sûr.
Bien sûr. Alors, on recevra Philippe Val, que vous connaissez pour son livre sur le rire, parce que ça, c'est important. Et peut-on, alors, question banale toujours, peut-on rire de tout? Moi, je pense qu'il faudrait rire de tout, mais on ne peut pas rire de tout. C'est-à-dire que le second degré aujourd'hui est pris pour du premier. Donc, vous-même, j'imagine, Thomas, vous faites attention à ce que vous dites.
Ah, bien sûr.
La preuve avec Léa, c'est-à-dire que, en fait, quand Léa dit vous êtes devenu chiant, c'est un
Elle
bon exemple.
C'est une blague, oui.
C'est pas une blague, c'est du second degré.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est du second degré.
Ouais.
Et avant, le second degré était pris pour le second degré. Et maintenant, le second degré, évidemment, il est toujours pris pour le second degré. Mais certains feignent de penser que c'est du premier. Vous me suivez ?
Oui.
Et ils montent des procès en sorcellerie. Donc, c'est insupportable.
Ouais.
Donc, vous avez envie de leur dire, bon, allez vous faire voir.
Bon, ça va, monsieur Pascal ?
Mais non, mais c'est insupportable.
Non, mais on n'aime pas quand vous êtes fâché. On n'aime pas quand vous êtes fâché et contrarié.
On
ne
peut plus faire de blagues.
J'ai une certaine liberté de ton. J'ai de la chance parce que j'ai un certain âge. Donc, on ne me dira rien parce qu'on dira « Oui, bon, c'est lui ». Mais les jeunes, ils sont terrorisés. Ils disent « Oh là là, je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, voilà, vous qui êtes jeune et beau, par exemple, vous faites attention à votre image.
Bah, j'ai l'espoir d'avoir encore un avenir.
Bah oui.
Mais ça va, vous, sinon tous, là.
Non, mais évidemment que ça va bien. Et puis, alors, on a des petites questions légères. Est-ce que vous prenez, par exemple, un appel lorsque l'appel est inconnu ?
Non.
Oui. Oui, oui. J'aime la surprise.
Vous aimez le risque, moi.
Exactement. Après, je peux raccrocher très vite.
En revanche, moi, je dors avec un doudou, Pascal.
C'est vrai ?
Oui.
Mais
je sais
doudou.
Que vous allez en parler.
Ouais.
Non, il est ridicule, le mien, vraiment. C'est
quoi ?
Des étiquettes de vêtements.
Non.
C'est des étiquettes de. Vous dormez avec des étiquettes de vêtements ?
Je coupe les étiquettes des vêtements et je dors avec.
Mais vous les accumulez, vous les.
Mais je ne comprends pas ce. C'est du fétichisme, peut-être. C'est autre chose.
C'est un moment très gênant sur Europe 1.
Non, mais depuis que je suis petite, chacun ses doudous.
Bah évidemment, je suis d'accord avec vous.
Je vais prendre rendez-vous chez quelqu'un et puis.
Moi, vous dormez avec une mascotte aussi, c'est vrai que ça.
Oui, bon, merci. Avec, allez,
avec le socialion. Vous dormez comme Marilyn Monroe avec numéro 5 de Chanel.
Est-ce qu'il met son costume tous les soirs
pour votre doudou ?
Merci à tous.
Le socialion.
Allez, bonne émission, Pascal. Salut.